Les maudits sont sans importance. Les mots sont sans importance.
Bonjour, la diseuse de mots. Aujourd'hui, je vous lis un troisième extrait du roman de Margaret Atwood, La servante écarlate. La semaine prochaine, nous commencerons un nouveau roman. Flanqué de mon double, je parcours la rue. Nous avons quitté le quartier du commandant, mais ici encore il y a de vastes demeures. Devant l'une d'elles, un gardien tond la pelouse. Les pelouses sont bien entretenues, les façades plaisantes, en bon état. On dirait les magnifiques photographies que l'on voyait avant dans les revues sur les maisons et les jardins et la décoration d'intérieur. Même absence de gens, même impression de sommeil. La rue est presque comme un musée ou une rue de maquettes construite pour montrer comment les gens vivaient autrefois. Comme dans ces images, ces musées, ces maquettes de ville, il n'y a pas d'enfants. Nous sommes au cœur de Gilead, là où la guerre ne peut pas faire intrusion, sauf à la télévision. Où sont les frontières? Nous n'en sommes pas sûrs. Elles varient selon les attaques et contre-attaques, mais nous sommes ici au centre, où rien ne bouge. La République de Gilead, disait Tante Lydia, ne connaît pas de frontières. Gilead est en vous. Ici vivaient jadis des médecins, des avocats, des professeurs d'université. Il n'y a plus d'avocats et l'université est fermée. Luc et moi, nous promenions ensemble parfois le long de ces rues. Nous parlions d'acheter une maison semblable à l'une de celles-ci, une grande vieille maison que l'on aménagerait. Nous aurions un jardin, des balançoires pour les enfants. Nous aurions des enfants. Tout en sachant qu'il était peu probable que nous en ayons un jour les moyens, c'était un sujet de conversation, notre jeu du dimanche. Pareille liberté paraît aujourd'hui presque aérienne. Nous tournons au coin d'une rue principale où il y a davantage de circulation. Des voitures passent, noires pour la plupart, quelques-unes gris et marron. Il y a d'autres femmes avec des paniers. Certaines en rouge, d'autres portant le vert terne des Martha, d'autres vêtues de robes à rayures rouges, bleues et vertes, bon marché et étriquées, qui signalent les épouses des hommes pauvres. On les appelle les écono-femmes. Elles ne sont pas réparties selon leurs fonctions. Elles doivent tout faire, si elles le peuvent. Parfois, on voit une femme tout en noir, une veuve. Il y en avait davantage avant, mais elle semble se faire rare. On ne voit pas les épouses des commandants sur les trottoirs, seulement dans les voitures. Les trottoirs ici sont en ciment. Comme un enfant, j'évite de marcher sur les rainures. Je me rappelle mes pieds sur ces trottoirs dans le temps d'avant et comment j'étais chaussée. Parfois c'était des chaussures de course avec des semelles rembourrées et des trous d'aération et des étoiles d'une matière fluorescente qui reflétait la lumière dans l'obscurité. Pourtant, je ne courais jamais de nuit, et dans la journée seulement, au long des routes bien fréquentées. Les femmes n'étaient pas protégées en ce temps-là. Je me souviens des règles qui n'étaient jamais précisées, mais que toute femme connaissait. Ne pas ouvrir la porte à un étranger, même s'il affirme être de la police. Lui demander de glisser une pièce d'identité sous la porte. Ne pas s'arrêter sur la route pour aider un automobiliste qui prétend être en difficulté. Garder les portières verrouillées et poursuivre sa route. Si quelqu'un siffle, ne pas se retourner. Ne pas se rendre dans une laverie automatique seule la nuit. Je pense aux laveries automatiques. À ce que je portais pour m'y rendre. Shorts, jeans, survêtements. À ce que j'y mettais. Mes propres vêtements, mon propre savon, mon propre argent. L'argent que j'avais gagné moi-même. Je songe à ce que représentait cette indépendance. À présent, nous parcourons la même rue, par paires rouges, et aucun homme ne nous crie d'obscénité, ne nous parle ni ne nous touche. Personne ne siffle. Il y a plus d'une sorte de liberté, disait tante Lydia. La liberté de et la liberté par rapport à. Au temps de l'anarchie, c'était la liberté de. Maintenant, on vous donne la liberté par rapport à. Ne la sous-estimez pas. Devant nous, à main droite, se trouve le magasin où nous commandons nos vêtements. Certains les appellent habits, ce qui leur va bien. Il est difficile de se déshabituer. À l'extérieur du magasin, il y a une énorme enseigne de bois en forme de lys. Il s'appelle le Lys des Champs. On peut voir l'endroit sous le lys où l'inscription a été badigeonnée de peinture quand ils ont décidé que même le nom des magasins constituait une trop grande tentation pour nous. Maintenant, ils ne sont marqués que par leurs enseignes. Le lys était un cinéma, avant. Les étudiants le fréquentaient assidûment. Au printemps, il y avait toujours un festival Humphrey Bogart, avec Lauren Bacall ou Catherine Hepburn, des femmes à part entière qui prenaient leurs propres décisions. Elles portaient des corsages boutonnés sur le devant qui suggéraient les possibilités du verbe « défaire ». Ces femmes pouvaient être défaites, ou pas. Elles semblaient avoir le choix alors. Nous semblions avoir le choix alors. Notre société se mourait, disait tante Lydia, à cause de trop de choix. Je ne sais pas quand ils ont cessé de tenir ce festival. Je devais être adulte, c'est pourquoi cela m'a échappé. Nous n'entrons pas au lys, nous traversons la rue et longeons une rue latérale. Notre premier arrêt est un magasin avec une autre enseigne en bois. Trois œufs, une abeille, une vache, lait et miel. Il y a la queue et nous attendons notre tour deux par deux. J'ai vu qu'ils avaient des oranges aujourd'hui. Depuis que l'Amérique centrale est aux mains des libertos, il est devenu difficile de trouver des oranges. Parfois il y en a, parfois pas. La guerre perturbe les arrivages d'oranges de Californie et on ne peut même pas compter sur la Floride à cause des barrages routiers et des voies de chemin de fer qui parfois ont sauté. Je contemple les oranges avec envie, mais je n'ai pas apporté de ticket pour les oranges. Au retour, j'en parlerai à Rita. Cela lui fera plaisir. Ce sera quelque chose, un petit exploit d'avoir fait advenir des oranges. Celles qui sont parvenues au comptoir remettent leurs tickets aux deux hommes en uniforme de gardien qui se tiennent de l'autre côté. Personne ne parle guère, quoiqu'il y ait un murmure et que les têtes des femmes remuent furtivement de droite et de gauche. Ici, en faisant les commissions, on pourrait voir quelqu'un de connaissance, quelqu'un qu'on aurait connu dans le temps d'avant ou au centre rouge. Juste apercevoir l'un de ces visages donne du courage. Si je pouvais voir Moira, seulement la voir, savoir qu'elle existe toujours. C'est difficile à imaginer ces jours-ci d'avoir une amie. Mais Déglin, à côté de moi, ne regarde pas. Peut-être ne connaît-elle plus personne, peut-être ont-elles toutes disparu les femmes qu'elle a connues, ou peut-être ne veut-elle pas être vue. Elle est plantée là, en silence, la tête baissée. Alors que nous attendons dans notre file double, la porte s'ouvre et deux autres femmes entrent, toutes deux vêtues de la robe rouge et des ailes blanches des servantes. L'une d'elles est très manifestement enceinte. Son ventre, sous son vêtement ample, se gonfle triomphalement. Il y a un mouvement dans la boutique, un murmure, une échappée de souffle. Malgré nous, nous tournons la tête ouvertement pour y voir mieux. Nos doigts brûlent de la toucher. Elle est pour nous une présence magique, un objet d'envie et de désir. Nous la convoitons. Elle est un drapeau au sommet d'une colline qui nous montre ce qui peut encore être accompli. Nous aussi pouvons être sauvés. Tous les jours. Deglin achète pourtant du steak et c'est la deuxième fois cette semaine. Je le dirai aux Martha. C'est le genre de choses qu'elles aiment savoir. Elles s'intéressent beaucoup à la manière dont les autres maisons sont gérées. Ces bribes de petits potins leur donnent des occasions de fierté ou de mécontentement. Je prends le poulet, enveloppé dans du papier de boucher et bridé avec de la ficelle. Il n'y a plus grand-chose qui soit en plastique maintenant. Je me rappelle les innombrables sacs en plastique blanc du supermarché. Je n'aimais pas les jeter et je les fourrais sous l'évier jusqu'au jour où il y en avait trop et qu'en ouvrant la porte du placard, ils ballonnaient au dehors et se répandaient par terre. Luc s'en plaignait souvent. Périodiquement, il prenait tous les sacs et les jetait. « Elle risque de s'en fourrer un sur la tête, » disait-il. « Tu sais, les jeux qui amusent les enfants. » Je répondais, « Elle ne ferait jamais une chose pareille. Elle est trop grande, ou trop maligne, ou trop chanceuse. » Mais je sentais un frisson de peur, puis de culpabilité, du fait d'avoir été si négligente. C'était vrai, je pensais que trop de choses allaient de soi. Je faisais confiance au destin, alors. « Je les rangerai plus haut dans le placard, » disais-je. « Ne les range nulle part, » répondait-il. « On ne s'en sert jamais. »« Sac poubelle, » disais-je. Il disait « Pas ici et maintenant, pas où des gens peuvent me voir. » Je me retourne, j'aperçois ma silhouette dans la vitrine, en glace sans teint. Donc nous sommes sortis, nous sommes dans la rue. Un groupe de gens s'avance vers nous. Ce sont des touristes, des Japonais semble-t-il, une délégation commerciale qui visite les sites historiques ou est en quête de couleurs locales. Ils sont minuscules. Et propre. Chacun et chacune a un appareil photographique et un sourire. Ils regardent autour d'eux, les yeux brillants, en tournant la tête de côté comme des rouges-gorges. Jusqu'à leur bonne humeur est agressive et je ne peux m'empêcher de les dévisager. Il y a longtemps que je n'ai pas vu de femme porter des jupes aussi courtes. Elles leur arrivent juste au-dessous du genou et les jambes en émergent, presque nues, sous leurs bas fins, voyantes. Elles ont des souliers à hauts talons, dont les lanières s'attachent à leurs pieds comme de délicats instruments de torture. Les femmes vacillent, sur leurs pieds acérés, comme sur des échasses, mais en déséquilibre, le dos cambré à la taille, les fesses rejetées en dehors. Elles ont la tête découverte, et leurs cheveux aussi sont exposés, dans toute leur noirceur et toute leur sexualité. Elle porte du rouge à lèvres carmin qui dessine des contours de la cavité humide de la bouche, comme les graffitis de murs de toilette autrefois. Je cesse d'avancer. Deglin s'arrête à côté de moi et sait qu'elle non plus ne peut détacher les yeux de ces femmes. Nous sommes fascinés, mais aussi dégoûtés. Elles paraissent déshabillées. Il a fallu si peu de temps pour changer notre façon de voir pour ces choses-là. Puis je pense, je m'habillais de la même façon. C'était la liberté? Occidentalisée, disait-on. Les touristes japonais se dirigent vers nous en gazouillant et nous détournons la tête trop tard. Nos visages ont été vus. Ils ont un interprète, costume bleu standard et cravate à motif rouge avec l'épingle représentant l'œil ailé. C'est lui qui se détache, sort du groupe devant nous, nous bloque le passage. Les touristes se massent derrière lui, l'un brandit un appareil photo. « Excusez-moi, nous dit-il à toutes les deux, assez poliment. Ils demandent s'ils peuvent prendre votre photo. » Je baisse les yeux sur le trottoir, secoue la tête pour signifier non. Ce qu'ils doivent voir, c'est seulement les ailes blanches, un bout de visage, mon menton et une partie de ma bouche, pas mes yeux. Je me garderai bien de regarder un interprète droit en face. La plupart des interprètes sont des yeux, du moins, c'est ce qu'on dit. Je me garderai tout autant de dire oui. La modestie, c'est d'être invisible, disait tante Lydia. Ne l'oubliez jamais. Être vu, c'est être. Sa voix tremblait, pénétrée. Ce que vous devez être, mesdemoiselles, c'est impénétrable. Elle nous appelait mesdemoiselles. Cet enfant que je t'avais fait, pas le premier, mais le second, te souviens-tu? Où l'as-tu mis? Qu'en as-tu fait? Celui dont j'aimais tant le nom. te souviens-tu? Offrez-moi une cigarette. J'aime la forme de vos mains. Que disiez-vous? Caressez-moi encore la tête. J'ai tout mon temps jusqu'à demain. Que disiez-vous? Vous pouvez me retrouver chaque vendredi à 8h30 ou en rediffusion le mardi à 16h30 ainsi qu'en podcast.
Les mots sont sans importance.
Les mots.